performance, là, je fais démarrer le chronomètre. Hein.
C'est Marie-Pierre Desbon, madame budget participatif, qui lance le chronomètre. 15 minutes de débat, c'est parti.
Pour une fois, on nous donne l'occasion de pouvoir faire quelque chose de grand même, et pour une commune ou pour une association. C'est une opportunité pour justement quelque chose qui est un peu porteur, même si ça coûte justement un peu cher. Ça n'aurait jamais pu se faire autrement.
Vous décidez, nous réalisons. C'est le principe des budgets participatifs. Les habitants d'une ville, d'une région ou d'un département se voient attribuer une part, pour le moment modeste, du budget local. En contrepartie, ils doivent élaborer, puis choisir, les projets qu'ils souhaitent voir aboutir. Ce qui donne lieu à de véritables campagnes électorales et à des débats souvent animés, de la politique au vrai sens du terme.
Tout ça partait d'une intuition bien avant le début du mouvement des Gilets jaunes, qui était que les liens se distendaient entre les responsables politiques et les citoyens.
À l'heure des grands débats sur la réappropriation de la démocratie par les citoyens, la pratique du budget participatif ouvre donc une voie apaisée vers des solutions concrètes pour améliorer la vie quotidienne des Français. Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, les projets retenus dans les 80 villes et dans les deux départements qui jouent le jeu concernent le cadre de vie, la solidarité et la défense de l'environnement. Il s'agit souvent de micro-projets, mais qui n'auraient jamais vu le jour sans l'impulsion des citoyens.
Quand vous voulez faire revenir les oiseaux en aménageant des nichoirs dans les jardins, que vous voulez sauver les abeilles et que vous mettez des ruches, ça n'est pas très cher, mais en réalité, c'est la petite pierre apportée à un grand changement.
Direction le Gers, au sud de Toulouse, le premier département à avoir ouvert son budget. En compagnie de Vanessa Descoureau pour ce reportage, vous décidez, nous réalisons.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à Oradée, c'est un village situé à l'ouest du département. Ce matin, très belle matinée ensoleillée, donc nous avons droit à une vue imprenable sur les Pyrénées quand on a pris cette route. Nous avons rendez-vous avec Sabine Tricouard. Son projet a été retenu, sélectionné par les électeurs gersois. Et pour un budget de 2000 euros, elle va construire une machine à recycler le plastique.
Trier et recycler, c'est déjà bien. Après, c'est vrai que si les industries pouvaient produire moins, ce serait mieux. C'est-à-dire de ne pas favoriser l'achat d'objets plastiques. Donc, par exemple, pour les brosses à dents, ce serait bien d'avoir des brosses à dents en bois et pas des brosses à dents en plastique. Mais la plupart de mes voisins, enfin, je vois, ça va être compliqué de faire passer ces idées-là. Donc, plutôt que, enfin, dans l'environnement où je vis, c'est plus simple d'aller réduire l'impact du plastique une fois utilisé que d'essayer de travailler à la source, ce qui va être beaucoup plus compliqué et plus épuisant.
Alors, d'un point de vue très pratique, très concret, comment on recycle du plastique ici, dans une maison, dans un garage à Oradée? Comment ça marche?
Alors, on va construire des machines pour broyer le plastique, en faire des petits granulés, qu'ensuite on peut faire fondre, pas avec du feu, parce que sinon ça devient toxique, enfin, ça c'est bien ce qu'on connaît. Donc, le faire fondre dans des tubes, avec une vis sans fin, ou alors un tube chauffé avec des capteurs autour. Et ensuite, on le pousse soit dans des moules, soit dans des petites buses, comme les impressions 3D.
Toutes les informations existent sur Internet.
Oui.
Salut à vous, mes petits pêcheurs-cueilleurs. Je ne sais pas si vous savez, mais selon les dernières études scientifiques, il y aurait plus de 270 000 tonnes de plastique qui flottent à la surface des océans. C'est énorme, imaginez, en termes de poids, c'est l'équivalent de 30 millions de bébés ou 30 millions de dindons qui pataugent dans l'eau salée. Générique.
Les chroniques écologiques du professeur Feuillage.
Il y a toutes les informations, donc il y a les tutoriels. Donc pour construire les machines, il y a tous les plans, il y a des indications sur les types de plastique, sur quelle température il faut les faire fondre, sur ensuite les objets qu'on peut créer. Et puis de toute façon, si on y va par étapes, tout devient simple, tout est écrit et tout est indiqué.
Qu'est-ce que ça devient après?
On peut faire ce qu'on veut avec, dans l'absolu, mais moi ce que je veux faire, c'est des objets utiles. Donc pas se retrouver avec du plastique qu'on va rejeter à la poubelle et retrouver encore dans les océans, parce que ce que je veux faire, c'est vraiment contribuer comme je peux aux soins de la planète. Et dans un premier temps, pour récompenser les gens qui apportent leur plastique et qui font l'effort de recycler, de trier, on fera des barres de construction et des plaques autoclaves pour faire des pavés, pour faire des choses concrètes, mais qui permettent d'avoir des choses rapidement une fois qu'on a apporté son plastique. Je vais le faire dans mon garage pour avoir les moyens de régler facilement, de ne pas partir loin, de l'avoir à disposition. Et ensuite, je le proposais à mon entourage, donc ceux qui sont autour de moi, mes voisins, mes amis, de participer. Ensuite, tous ceux qui sont volontaires, et je verrai ensuite avec le maire du village. Donc, on installera voilà, une installation qui permettra de récolter le plastique, d'être à l'échelle du village. Et après, je pense qu'on peut très bien être à l'échelle de la communauté de communes, et voire même après à l'échelle du Gers, et voire même après, enfin, il peut y avoir des rêves fous.
Il y a un travail de pédagogie aussi à mener.
Oh, sûrement. Les gens pensent que le plastique n'est pas recyclable parce que c'est ce qu'on nous fournit. Il faudra sûrement faire comprendre aux gens qu'ils peuvent aussi eux-mêmes être acteurs, même s'ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas zéro déchet. Ils sont dans la vie actuelle, ils sont avec les supermarchés, avec, ils peuvent participer aussi.
Je me sens comme un sac en plastique qui vole au vent.
Alors là, on a rendez-vous avec Philippe Martin. Il est le président socialiste du conseil départemental du Gers. Et c'est donc lui qui a mis en place ce budget participatif.
Madame
Descoureaux.
C'est ça.
Le budget participatif, on a longtemps pensé que c'était consacré aux centres urbains, aux grandes villes, quelque chose d'un peu bobo, hein, si je résume. Bing, ça marche ici dans Gers. D'où c'est parti cette idée?
En fait, c'est venu après les élections législatives et présidentielles. Je me suis rendu compte que je venais, moi, de la démocratie représentative, que je venais d'un vieux parti vertical, le Parti Socialiste, et qu'au fond, les formations politiques qui avaient co-construit leur projet avec les citoyens, que ce soit La République En Marche ou La France Insoumise, avaient probablement eu plus d'audience parce qu'elles avaient su modifier leur façon de faire. Et là, je me suis dit, bah, de deux choses. L'une, où je continue de gérer le département en bon père de famille, ce qui est facile à faire, où je renverse la table. Et j'ai eu envie de renverser la table. Mais tout ça partait d'une intuition bien avant le début du mouvement des Gilets jaunes, qui était que les liens se distendaient entre les responsables politiques et les citoyens. Et dans un département comme le Gers, qui était historiquement un département très civique, très républicain, qui est chaque fois dans les trois premiers à midi pour les votes et la participation citoyenne, bah même là, ça a commencé un petit peu à se relâcher. Et moi, je savais plus comment rétablir le lien avec les citoyens. Je me dis, bah, peut-être que ça va pas tout solutionner, mais peut-être que si on se met à avoir de la considération pour les gens, si on leur explique que c'est eux qui vont définir quels sont les projets qui peuvent améliorer leur vie quotidienne, peut-être qu'ils marcheront. Donc c'était un pari qui était intuitif et prévisionnel de ce qu'allait se passer.
Quel écho, selon vous, ça donne? Quel écho particulier ça donne avec cette crise des Gilets jaunes qui nous entoure?
L'écho que ça a, c'est que ça coche une des cases. Ça résout pas tout le problème, ça coche une des cases qui est celle de une meilleure prise en compte, une meilleure responsabilisation des citoyens. Alors ça peut être par le budget participatif, ça peut être par le fait de les consulter pour des référendums d'initiatives locaux. Je parle pas de RIC, mais de RIL. Je pense que si le président de la République dit, ou en tout cas pense ce qu'il dit, à savoir il faut donner plus de liberté aux collectivités locales, il faut qu'elles expérimentent des choses, eh bien, ça fait partie peut-être des réponses à donner à l'issue du grand débat. Faire confiance à des collectivités de proximité comme les départements pour renouer les fils avec les citoyens.
Dans cette crise démocratique qui secoue très massivement le pays, est-ce qu'il y a quelque chose de réjouissant de voir qu'à une échelle du département, bah, ça marche?
Oui, il y a une satisfaction, parce que quand on a lancé le budget participatif, on s'était dit, bon, si on a 10 000 votants, on sera très content. On en a eu 35 000.
25% du corps électoral.
Oui, c'est-à-dire que si le budget participatif avait été candidat à la présidentielle, il serait arrivé en tête au premier tour. Donc ça, c'est très satisfaisant, parce qu'on se dit, mince, moi je pensais que les notions d'intérêt général, d'intérêt collectif, c'était des mots qui étaient morts, qui étaient devenus morts pour les gens, qu'on était dans un individualisme, au fond, pas de confiance dans l'action collective, donc on se réfugie dans une satisfaction et un bonheur individuel. Et puis là, quand on dit aux gens, bah non, c'est vous qui allez pouvoir décider, quand on va les voir sur des marchés à des périodes où il n'y a pas d'élection, ça change le rapport, ça change la parole, et les gens se disent, eh ben ok, on va y aller. Et ça crée dans les villages du Gers de la discussion, de la mise en commun d'intelligence, et on a abouti à des projets d'une rare intelligence individuelle et collective. Le premier projet qui est arrivé en tête dans Gers, qui est un équipement pour accueillir des jeunes enfants autistes et d'une intelligence totale par rapport à ce qu'on doit faire, et il a été fait par des gens et soutenu par des citoyens.
Le Gers est un département rural avec une population relativement âgée, mais il faut préciser que 10% de l'enveloppe consacrée au budget participatif, 10% sont consacrés à des projets défendus par des jeunes.
Oui, on va marquer sur le tableau. Et nous ont bouffé, nous ont marché sur la gueule pendant 80 minutes.
On est trop gentil.
Oh, il est trop gentil, quand tu peux pas, tu peux pas, hein.
Nous sommes à Saint-Clar, c'est un village d'un bon millier d'habitants, situé à une grosse demi-heure de la ville-préfecture, c'est-à-dire Auch. C'est un village ici qui va plutôt bien dans le sens où il y a une maison des services publics, il y a des médecins également. Le village a réussi à recruter deux nouveaux médecins espagnols qui vont s'installer ici. Il y a un dentiste parisien également qui va venir bientôt s'installer à Saint-Clar, qui s'en sort donc plutôt bien en comparaison avec les villages ou les hameaux tout autour, pour lesquels les démarches administratives sont souvent synonymes de tracas. Nous sommes avec Jean-Pierre, ici dans le centre de Saint-Clar. Vous avez Internet, Jean-Pierre ?
Non, je n'ai pas Internet, parce que je pensais que je pouvais m'en passer. Et puis j'arrive quand même à 80 ans maintenant, et je m'aperçois que c'est de plus en plus difficile, surtout avec les administrations, avec tout ça.
Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus le choix.
Voilà, on s'en rend compte, mais peut-être un peu tard.
Et vous faites comment en attendant la famille ?
Je me débrouille.
Comment ?
En allant dans les administrations. Et quand elles vous reçoivent, c'est bien, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Je vais être obligé de m'y mettre, mais je ne sais pas si je serai capable de m'y mettre.
Tout s'apprend.
Tout s'apprend, oui, mais vous savez, le cerveau, arrive à un certain âge, il y a des trous. Hein.
Si je vous dis que dans le cadre du budget participatif, ici dans le département, un bus connecté a été sélectionné pour justement faire le tour du canton ici, pour aider les gens dans leurs démarches administratives qui aujourd'hui sont dématérialisées, comme on dit. Ça, c'est un projet qui vous convainc, qui vous plaît ? Vous avez envie d'en savoir plus ?
Absolument, oui. Oui, je serais heureux de pouvoir être aidé, justement, sans avoir à courir à droite, à gauche. Quand vous ne discutez plus avec Pierre-Jacques ou Guillaume, c'est navrant, quoi. Il n'y a plus de contact, maintenant. C'est un peu dommage.
Il n'y a que du clic.
Exactement. Je vous remercie.
Bonne journée,
bonne
monsieur.
Bonne journée.
Voilà le train de sécurité.
Madame.
Monsieur.
Il va bien ?
Et toi ?
Oui.
Bonjour.
Bonjour. Vous en savez que je vais pas pour aller de café, s'il te plaît.
Mais bien sûr.
Nous sommes aux côtés de Laurent Déric, qui est informaticien ici à Saint-Clar. Et s'il y a bien quelqu'un qui vit au quotidien, lors de ses interventions, cette fracture numérique, cet isolement administratif et numérique, c'est bien vous. Qu'est-ce que vous constatez ici ?
Le constat est sensible, dans le sens où, dans le milieu rural, il y a tellement de personnes qui, pour des raisons de mobilité ou même d'isolement, se retrouvent sans aucun moyen de communication. Certaines personnes ont à peine un téléphone chez elles, dans certains cas.
Fixe.
Je parle uniquement fixe. Je me déplace, je vais chez eux, parce que c'est hyper important pour eux. Ça leur fait une visite aussi. Et j'interviens sur une zone de plus en plus grande, effectivement. Si ça peut aider cette histoire de camping-car, justement, à pallier à ça, ça serait une forme aussi solidaire qu'humaine de pouvoir apporter des services à des personnes comme celle-ci.
Donc, c'est pour ça que vous faites partie des initiateurs de ce projet de bus connecté, de camping-car connecté. Il y en a eu 5, hein, des initiateurs dans tout le département. C'est bien la preuve qu'il y avait un besoin à l'échelle du département. Et vous êtes l'un d'eux.
Nous sommes 5 à avoir eu cette idée un peu similaire. Parce qu'il y a vraiment ce besoin. Ça m'affecte beaucoup parce que l'aspect humain est hyper important. Et j'ai remarqué que ça avait tendance à se perdre de plus en plus. Effectivement, ça me touche, oui.
Vous parlez humanité, vous parlez solidarité. Êtes-vous du 21e siècle ?
Ouais, c'est antidaté, on va dire, c'est vrai. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, ce côté humain qui se désagrège, quoi. Et l'histoire du camping-car connecté, c'est bien dans cette optique aussi. C'est pour pouvoir relier les gens aussi, en leur venant en aide. Je pense que c'est ça le plus important.
C'est à Porto Alegre, au Brésil, qu'a émergé à la fin des années 80 cette conception de budget participatif. Il s'agissait à l'époque, pour la capitale de l'altermondialisme, de lutter contre la fracture sociale qui laissait de côté de nombreux citoyens sur le chemin de la décision politique. Depuis, la pratique a essaimé, mais on retrouve les mêmes préoccupations. Le bus connecté du Gers, conçu et financé par les Gersois eux-mêmes, via leur budget participatif, a pour vocation de lutter contre la fracture numérique. Il sillonnera les routes du département dès l'automne.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour, c'est Vanessa Descoureaux de France Inter.
Oui, je viens vous chercher, madame.
Nous sommes de retour à Auch pour voir comment va se mettre en place ce bus connecté. Et pour ça, nous avons rendez-vous dans les locaux du numéro vert social.
Et bonjour.
Vous allez bien ?
Bien et vous ?
Très bien.
Même pas perdu.
Même pas perdu.
Du premier.
Quelle grande !
Ah, mais j'étais toute espantée par ça.
Espantée, vous étiez ? Ah, ça c'est bien. Vous dites pas beurre au chocolat, j'espère. Vous dites chocolatine.
Évidemment, je sais où je suis, je ne veux pas prendre de risques. N'allez pas raviver ce débat.
Je m'appelle Marie-Josée Zago, je suis psychologue et anciennement chef de service du numéro vert social.
C'est un numéro de téléphonie sociale et vous entendez régulièrement des témoignages de gens qui sont complètement perdus dans les dédales administratifs. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent ici.
C'est ça, c'est exactement ce dont vous parlez, c'est-à-dire que les gens sont loin. Le Gers est un département très étendu et où il y a peu de moyens de communication. Donc les gens sont perdus et par la distance et par les démarches administratives, c'est-à-dire que l'État vient de décider que tout serait dématérialisé. Et en effet, les gens sont très, très inquiets parce que non seulement ils sont loin de l'information, et qui dit de l'information dit loin du droit, et en plus, ils craignent cette histoire d'informatique dont ils n'ont aucune connaissance et dont ils ont peur.
Donc ce sont les citoyens qui ont porté ce projet, un projet dans lequel vous vous reconnaissez parce que vous avez ces besoins-là. Les gens ont fait le boulot des politiques, si je résume.
Ben, c'est-à-dire, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les politiques avaient été sensibilisés par la question de l'itinérance et de la proximité du droit, mais simplement, on était en train de réfléchir à comment on allait le mettre en place. Sauf que le budget participatif est arrivé, et du coup, dans tous les endroits où on a été présenté ce budget, il ressortait la même question. La question du droit, la question de l'informatique et la question de la proximité. Avec ces 80 000 euros, les gens pouvaient avoir le bus. Mais encore fallait-il des personnes compétentes pour aller dans le bus, pour les aider à avoir leurs droits et les aider au niveau de l'informatique. Et donc, les politiques ont demandé au numéro vert d'être ces personnes-là, puisqu'ils avaient montré leurs compétences par ailleurs. Voilà.
Et là, je vais me retourner naturellement vers vous.
Abdelatif Benjedour, et je suis le responsable du numéro vert social, donc j'ai pris la suite de Madame Zago.
Et donc c'est votre équipe qui va être dans ce bus et qui va sillonner deux parties distinctes du département.
On est cinq dans l'équipe, cinq répondants, un chef de service, un responsable informatique et trois médiatrices téléphoniques. Il y aura deux personnes qui vont sortir trois fois par semaine, voire quatre, on verra, on n'a pas encore établi exactement, pour aller sur le terrain et au plus près des Gersois. Et l'idée, c'est de tourner, essayer de toucher toutes les communes avec un planning. Le matin, on sera sur une commune, l'après-midi sur une autre. Et sur 3 mois, on va essayer de toucher une dizaine de communes. Et tous les 3 mois, changer de secteur pour toucher toutes les communes de l'intercommunalité.
Vous connaissez votre public, entre guillemets, vous les avez au téléphone, là vous allez les rencontrer. Vous avez une idée déjà de ce à quoi vous pouvez vous attendre ?
Oui. Je pense qu'on va, dans un premier temps, faire beaucoup de création de comptes, mail, à la CPAM, à la CAF. Voilà, il y a toutes ces démarches-là qu'on va devoir faire pour que les gens puissent accéder à leurs droits. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même 20% de personnes qui ne sont pas connectées. Dans les 20%, il y en a qui ne voudront jamais entendre parler d'informatique.
Je rebondis sur l'enquête oui. que vous citez. Il y a un autre chiffre important dans cette enquête sur le millier de personnes que vous avez entendues. 32% de ces personnes, qui sont des seniors dans cette enquête, 32% d'entre elles avouent avoir des difficultés face aux démarches administratives.
locomotives. C'est énorme, c'est un tiers de la population.
Oui, tout à fait. Et on
était. Vous n'avez qu'un bus et 5 personnes.
C'est ça. La difficulté, c'est ça. C'est qu'on risque de faire des frustrés. Il faudra voir avec nos politiques s'il n'y a pas possibilité de développer ce service-là, quoi.
L'île Jourdain a vu sa population augmenter de quasiment 20% ces 10 dernières années. C'est évidemment lié à sa proximité avec Toulouse et donc son bassin d'emploi. C'est un phénomène qui n'est pas du tout d'ailleurs à l'image de ce qui se passe dans le reste du département. Alors forcément ici, il y a pas mal de projets qui touchent, qui concernent cette commune de 9000 habitants. Et on va voir ce qu'en pense le maire de l'île Jourdain.
Je suis Francis Hydrac, le maire de l'île Jourdain dans le département du Gers, deuxième commune du département.
Comment voyez-vous cette initiative de budget participatif ?
Moi, je le vois d'un bon œil. Il y a des projets qui n'auraient peut-être jamais vu le jour dans notre département s'il n'y avait pas eu ce budget participatif.
Est-ce qu'il n'y a pas une partie de vous qui se sent un peu dépossédée quand même de son action, en disant « Ok, c'est complémentaire, c'est bien, mais c'est mon territoire, c'est mon terrain de jeu ».
Non, moi, enfin, en ce qui me concerne, non, pas du tout. Parce que, si vous voulez, nous sommes épaulés quand même. Mais je ne me sens pas dépossédé, parce qu'il y a un dialogue entre le département et la ville, donc je veux dire, non, honnêtement, je ne me sens pas dépossédé du tout.
Parce que tout ça s'inscrit dans un contexte où les ressources se raréfient pour les collectivités locales, dont la vôtre.
Et oui, les ressources se raréfient. On a vu notre dotation globale de fonctionnement qui a beaucoup diminué ces 5 dernières années. C'est très compliqué pour les mairies. Nous avons dû, malgré cela, ne pas augmenter la pression fiscale parce qu'elle est déjà lourde sur nos territoires. Nous avons donc procédé à des réductions de charges de fonctionnement importantes. Nous avons touché aux charges de personnel. Je m'explique, nous n'avons pas remplacé systématiquement les départs. Mais aujourd'hui, on est quand même à flux tendu, en particulier au niveau des services techniques. Si l'État continue à baisser ses aides ou à les stabiliser et ne pas les augmenter, alors que des villes comme nous avons la population qui augmente, ça va devenir très compliqué dans les années à venir.
Ce sont des projets, notamment le projet de skatepark, oui, porté par les jeunes de la ville. C'est un projet que vous n'auriez pas pu financer avec tout ce que vous venez de nous décrire avec les ressources à la baisse?
Non, je n'aurais pas pu le financer et le l'aide supplémentaire que l'on aura du département permettra de réaliser ce projet.
Est-ce que vous avez appris, vous, des choses avec les projets qui ont émergé de ce budget participatif ?
Oui, tout à fait. D'abord, j'ai appris quelque chose, c'est que beaucoup d'administrés sont venus, ont participé, ont voté et ont émis des idées auxquelles on avait plus ou moins pensé, mais on a pu se rendre compte de ce qui était important pour les gens et de ce qui l'était moins. Aujourd'hui, la circulation, le stationnement, les aires de covoiturage sont des choses importantes pour les Lillois. Les problèmes que l'on se pose aujourd'hui, nous les élus, les Lillois se les posent aussi.
Et ça rassure ?
Et ça rassure, ça rassure.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
On quitte le Gers quelques instants pour faire un rapide détour par Paris, dans votre bureau. Loïc Blondiot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques et surtout, et c'est pour ça qu'on vient vous voir, spécialiste de toutes ces questions relatives à la démocratie participative. Alors ça y est, on prend ces questions-là au sérieux, on a fini de se moquer de ces budgets participatifs, de cette forme de démocratie ?
Bon, je pense qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Il y a effectivement des signaux, et le succès remporté par le grand débat montre qu'il y a chez les citoyens vraiment une envie de parler, une envie d'échanger sur les questions politiques, sur les affaires publiques, mais je ne suis pas sûr encore que du point de vue des décideurs, la démocratie participative apparaisse comme réellement légitime. Je pense que les principales résistances, elles viennent de ceux qui détiennent l'autorité, que ce soit l'autorité d'expertise, l'autorité scientifique, soit l'autorité politique, qui finalement restent persuadés qu'ils ont le monopole de la définition de l'intérêt général. Il y a une forme de réchauffement, il y a une forme de prise au sérieux, mais je ne crois pas qu'il y ait pour l'instant un vrai basculement.
Alors comment il faut percevoir ça sans donner trop d'importance non plus? Il faut rappeler que dans le cas du Gers, c'est 3% du budget d'investissement. Faut-il voir ça comme une solution, comme une illusion?
Ah non, il faut pas voir ça comme une illusion. Il me semble que 3%, 5%, comme dans le budget participatif parisien, c'est un point de départ. Hein, rien ne dit qu'on n'ira pas jusqu'à des pourcentages bien supérieurs, sans remettre en cause forcément le schéma classique de la démocratie représentative. Donc le budget participatif, lorsqu'il répond aux règles du budget participatif, c'est-à-dire qu'il y a un vrai pouvoir de décision en jeu, le budget participatif est tout sauf une illusion. Je pense que c'est un point de départ, c'est le début de la reconnaissance de ce que les citoyens ont des solutions hein, aux questions auxquelles sont confrontées aujourd'hui nos démocraties, et c'est indéniable que les citoyens ont de l'imagination, les citoyens ont une expertise qu'ils peuvent faire valoir au travers de la participation, et puis surtout, n'oublions pas que aujourd'hui, il y a la démocratie participative, mais il y a aussi toutes les expériences qui sont à l'initiative des citoyens et qui se déploient en dehors des institutions. Donc, il me semble qu'il y a une forme de continuité entre les formes classiques de la décision institutionnelle, la démocratie participative qui instaure des espaces de co-construction entre les citoyens et les élus, mais il y a aussi tout ce que les citoyens font sans attendre les institutions. Et c'est ça qui me paraît aujourd'hui le plus prometteur.
Et le tout étant de faire avancer la démocratie, d'innover des choses?
Ah ben, on n'a plus le choix aujourd'hui. Il me semble que, bon, on est dans une fin de cycle hein, en ce qui concerne la démocratie représentative. Il y a un tel degré de défiance à l'égard des institutions et une telle inefficacité pratique de ces institutions qu'il va falloir aller chercher des ressources. On voit bien comment dans les pays du Sud, finalement, c'est la faillite des services publics, c'est la faillite de l'État qui permet à des solutions citoyenne, d'auto-organisation, d'émerger. Et il est possible que dans nos sociétés occidentales, on assiste au même processus dans les années qui viennent.
Dans le Gers, premier département à avoir ouvert son budget à ses habitants, la première campagne de consultation a rassemblé un millier d'idées. 35 000 Gersois, sur un peu moins de 200 000, ont participé d'une manière ou d'une autre au débat et 41 projets sont en voie d'achèvement. Fort de ce succès, le département vient de lancer sa deuxième campagne. On retrouve donc Vanessa Descouraux dans la salle des fêtes de Vic-Fezensac, où la première réunion de préparation, un mercredi à 19h, réunit 300 habitants, à peu près 10% de la population.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Je m'appelle Marie-Pierre Desbon et je suis directrice de la stratégie et de la participation citoyenne au conseil départemental du Gers.
Ce soir sera donc lancée officiellement la deuxième édition de ce budget participatif et on a vu des ateliers en rentrant. Là, ils vont servir à quoi ces ateliers ?
La démarche aussi qui est un peu originale dans ce budget participatif, c'est que non seulement la participation, elle concerne les projets, mais elle concerne aussi les règles de ce budget participatif.
Alors sur le qui peut voter par exemple, la première édition était très très vaste hein, sur qui peut voter.
Oui, c'est vrai que c'est les Gersois qui avaient choisi lors de trois premières réunions participatives de co-construction, qui avaient dit finalement pas de limite d'âge. À 12 ans, 13 ans, ben, on peut être intéressé par ce qui se passe ben, dans son village ou dans sa commune. On peut avoir envie d'améliorer son cadre de vie. On s'est dit aussi que des étrangers qui vivent dans le Gers, alors que ça peut être ben, des gens qui n'ont pas le droit de vote habituellement ou des gens en résidence secondaire, ben, sont intéressés aussi par le Gers et ce qui s'y passe. Et aussi, nous avions à cœur de faire regarder aux Gersois expatriés, et notamment les jeunes Gersois qui vont étudier à Toulouse ou à Paris ou aller chercher un travail, eh bien, on s'est dit aussi que c'était un lien fort pour qu'ils gardent enfin, vraiment un investissement dans le Gers, au cas où peut-être aussi ils reviendraient. L'édition de 2018 a bien montré que vraiment c'est dans un département quasiment le plus rural de France que le taux de participation et l'engouement pour ce budget participatif a été extraordinaire et bien au-delà de ce qui se passe ailleurs. Si je peux vous donner juste un exemple, la moyenne des budgets participatifs en France, qui ne se passe que dans des villes, on est bien d'accord, c'est 4% de participation par rapport à la population. Nous, dès la première année, on a quasiment atteint 20% de la population qui a participé à ce budget participatif.
Paris, par exemple, c'est pas plus de 4%, alors que ça fait des années que c'est institué, que l'enveloppe est conséquente.
4%, c'est la moyenne. Paris, en l'occurrence, au bout de 5 années, effectivement, est à 7 à 8%.
Vous savez comment ça se passe? Il y a toujours des gens qui vont dire « Oui, mais ce sont des tout petits projets, ça va pas changer évidemment la face du monde, même pas celle du département, c'est microscopique. »
Quelle est la définition du petit projet? Voilà, je vais vous donner deux ou trois exemples de projets qui ne coûtent pas plus de 2000 euros et pourtant qui peuvent changer les choses, parce que quand vous voulez faire revenir les oiseaux en aménageant des nichoirs dans les jardins, que vous voulez sauver les abeilles, que ce soit les abeilles noires ou les abeilles plus classiques, et que vous mettez des ruches, ça n'est pas très cher, mais en réalité c'est la petite pierre apportée à un grand changement.
En 2019, le département lance son deuxième budget participatif doté d'1 million d'euros. Comment ça marche? Vous avez une idée pour le Gers?
Ah ouais, ben répartissez-vous sur les tables.
Promenade, créer un skatepark, voilà. Installer des panneaux solaires, ouvrir des jardins potagers partagés, à vos idées, à vos projets.
Alors le vert, c'est quel...
On a tous les mêmes questions, c'est les trois mêmes questions.
Bon, allez, oh. Voilà. Bon, alors... On fait comment là? Allez.
Allez, on commence par celui-là.
Alors, monsieur. Le BPG1 a garanti au moins un projet lauréat par canton. Maintient-on cette règle, oui ou non?
Moi, je pense que oui.
Oui,
moi, je dis oui aussi. Bon, quand on les oui, le reste, c'est non.
Non, mais. On va démarrer tous en même temps.
Monsieur, oui?
Moi, je pense que oui, c'est bien. Ça fait une équité un peu. Bon.
On maintient cette règle. Alors.
Là, les citoyens ont été appelés à se répartir en atelier. Plusieurs questions sont discutées. L'une d'entre elles concerne une règle précédente. Est-ce qu'il faut maintenir au moins un projet lauréat par canton? Et l'autre question, assez sensible, c'est est-ce qu'il faut plafonner le budget alloué à ces projets?
Alors, je laisse vous exprimer là. Et après, je vais m'exprimer.
Alors, ça va rejoindre, on
commence là. Je fais démarrer le chronomètre, hein. Allez, vous avez déjà commencé, tant mieux. Ça vous fera un peu plus de temps. Allez.
C'est Marie-Pierre Desbon, madame budget participatif, qui lance le chronomètre. 15 minutes de débat, c'est parti.
On en était à la deuxième question.
Alors, et après, il y a la troisième.
Ça va?
Écoutez, ça se passe bien, ça discute en tout cas, hein, vous voyez bien.
Pour une fois, on nous donne l'occasion de pouvoir faire quelque chose de grand, même. Et pour une commune ou pour une association, il faut en tenir compte, parce que... Bon, les petites dépenses...
On arrive toujours à
s'en sortir. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je vois que c'est une opportunité pour, justement, quelque chose qui est un peu porteur, un peu... Et même si ça coûte, justement, un peu cher. Ça n'aurait jamais pu se faire autrement.
Voilà, oui. Donc, en fait, est-ce que vous avez fixé un plafond? Combien? Parce que voilà, le plafond, vous le mettez à combien? 50 000? Une fois, 50 000, deux fois, 50 000, trois fois.
Ah, 50 000.
Oui, 50 000.
Oui, tous 50 000.
Et il reste encore 5 minutes. C'est comme dans Top Chef. Après, vous levez les mains. Donc, 5 minutes. Merci.
Moi, je m'appelle Olivier Rouric et j'ai déposé des projets pour une association qui s'appelle Attelle-toi, donc autour du cheval, l'attelage, et un autre projet autour d'une association qui s'appelle Un monde à refaire sur Marciac.
Comment vous voyez cette initiative de budget participatif? C'est une opportunité pour vous?
Complètement. C'est dans l'air du temps, hein, que le citoyen a envie de participer aux décisions, aux grandes décisions de financement, donc associatif, ça me paraît important, oui. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment, à très haut niveau même. Hein. Donc c'est ça, c'est dans un département, les gens qui s'investissent, vous voyez le monde qu'il y a ce soir, c'est très très encourageant d'ailleurs, hein, les gens qui s'investissent dans leur association et qui trouvent qu'un département qui pose la question à ses citoyens de savoir comment vous voulez répartir l'argent qui est a priori destiné à des associations, un peu de clarté et votre avis. Donc ça me paraît vachement intéressant.
Donc vous allez retravailler vos deux projets? Rejeter la première édition, qu'est-ce que vous allez corriger?
Corriger non, parce que c'était des bons projets dès le début, mais après s'améliorer dans la communication. Il y a quand même un petit... ce projet, il est basé quand même sur un système commercial. Hein. C'est plus vous avez de votes et plus vous avez de chances de gagner. Bon, ça, j'ai un petit doute là-dessus, parce qu'il faut quasiment fabriquer des lobbying, aller chercher des signatures. C'est assez compliqué quand même. Mais En fait, l'avantage, c'est que ça fait circuler les idées et ça oblige un peu les gens à aller vers l'autre pour aller expliquer son projet. Donc ça, rien que ça, c'est un système qui est assez intéressant. C'est un exercice de lien à l'autre qui m'a beaucoup plu.
Vous avez fait référence au contexte politique au niveau national, mais est-ce que l'échelle départementale est selon vous une bonne échelle justement pour être inclus dans ce genre de projet ?
C'est totalement la bonne échelle. Hein. Nous, on est très loin de ce qui se passe à Paris et on a envie de vivre ici. C'est un choix de vie ici. Hein. Quand on vit dans un département comme le Gers, on est dans l'hyper-ruralité. C'est un mot qui a été inventé pas loin d'ici, je crois bien. Mais on a envie d'être ancré dans ce département. Oui. C'est d'être totalement impliqué dans la vie au quotidien, ouais. Ça me semble extrêmement important. Ouais.
Donc c'est la bonne échelle.
Ouais, c'est la bonne échelle. Même la commune, c'est la bonne échelle. C'est commune, département, bien sûr.
Merci beaucoup et bonne chance pour la nouvelle campagne à venir.
On va affiner. Donc rendez-vous le 20 mars pour ceux qui veulent venir à Gimont sur la deuxième réunion. En charge des modalités.
Le quart d'heure gascon étant ce qu'il est, il n'y a pas eu un quart d'heure de discussion, mais bien plus, au moins le double. Et voici les tendances qui se dégagent sur les trois questions qui étaient posées. Donc oui, il y aura bien un projet par canton, comme la première édition. En revanche, il y aura un plafonnement des budgets alloués à ces projets. Ce plafond sera à définir par une commission citoyenne, c'est-à-dire des citoyens qui vont se porter volontaires pour faire partie de cette commission et rentrer plus dans le détail des modalités de vote. Et enfin, pour cette nouvelle édition, il y aura des tranches qui seront établies pour différencier les petits et les gros projets.
Interception sur France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue au jardin de la Marquise. Voilà, c'est des jardins qui ont été créés il y a environ un an et demi. C'est un jardin qui est dédié à la permaculture. C'est un endroit là où c'est qu'on reçoit pas mal de particuliers, de crèches, d'écoles maternelles, d'écoles primaires aussi. Et on les initie un peu aux techniques 100% naturelles de jardinage et aussi tout ce qui est en relation aussi avec l'écologie.
Jérôme Raffanel, si on vient vous voir ici sur votre ferme, votre projet de permaculture, c'est parce que vous aviez déposé un projet lors de la première édition du budget participatif. Pas de chance, pas retenu. Mmh. Vous avez décidé de refaire campagne pour cette deuxième édition.
Bon, on a fait cette demande sans y croire au départ, hein, parce qu'on s'est dit, bon, il y a tellement de projets. Est-ce qu'un petit projet comme le nôtre vraiment va réussir à faire quelque chose ? Et on a été vraiment, vraiment surpris parce qu'on a eu plus de 450 votes. On est passé vraiment à quelques voix vraiment du sacré, si on peut dire. Ce budget-là allait nous servir, en fait, à aller acheter une serre pédagogique, ce qui était très important pour nous parce que c'est un gros budget. Bon, c'est vrai que dommage, on est passé à très peu. Donc c'est pour ça que quand on a entendu dire que ça allait encore recommencer, là, c'était pour nous important quand même de relancer cette campagne-là. Et on est conscient qu'on a fait des choses très bien pour ce budget participatif, mais on a laissé des petites choses aussi au travers de tout ça.
Vous voulez dire dans la façon dont vous avez fait
campagne ? Oui, voilà, exactement. C'est vrai qu'on a minimisé en fait un peu la campagne sur le terrain. On s'est vraiment axé sur la campagne vraiment d'Internet, les réseaux sociaux qui a forcément hyper bien marché. Et on s'était dit, bon, peut-être que ça va passer comme ça. Bon, mais manque de peau, c'est pas passé. On a compris très bien que maintenant, voilà, il faut vraiment lier les deux. Et c'est pour ça que quand on était à Auch, on nous avait vraiment parlé d'une campagne un peu présidentielle. Bon, nous, on n'était pas prêts à tout ça parce que, on a envie de rester aussi dans ces valeurs aussi de la permaculture. On n'est pas là aussi pour... on voulait pas faire campagne, mais c'est tellement important pour nous maintenant de décrocher quand même un petit budget parce qu'on n'a aucune subvention dans ce projet pour l'instant. Parce que sans ça, ça va être difficile de continuer notre projet. Parce que c'est un métier maintenant, c'est un choix de vie aussi qu'on a fait. Que ça soit moi et Sarah qui est la secrétaire de l'association, c'est un choix de vie. J'ai pas d'autre travail à côté, hein, donc pour l'instant, on n'arrive pas à en vivre parce que tout l'argent qu'on gagne, on le réintroduit directement dans l'association pour pouvoir réinvestir dans du matériel. Donc pour l'instant, on ne gagne pas d'argent, mais on espère d'ici quelques mois, au moins se sortir, si on peut, un petit salaire. Quoi. Voilà.
Petite précision, le financement escompté dans le cadre de ce budget participatif s'élève à 10 000 euros.
Vous parlez quasi comme un politique, quand même plus de terrain, moins de numérique la prochaine fois. Enfin, on s'approprie sa campagne, sa façon de faire élire son projet, c'est quelque chose de... qui devient quasiment charnel à un moment, quand même.
Ben oui, ouais, franchement, ouais. Moi, c'est mon bébé, vous savez, ici, quoi. Je vis pour les jardins de la Marquise, quoi. Donc, je veux pas me mettre comme un politique, parce que non, j'aime pas du tout ça. Mais on a envie d'arriver à quelque chose de grand, quoi. Donc, parce que, de toute façon, c'est d'actualité maintenant. On est conscient que notre planète, maintenant, si on est dans une situation très critique, c'est pas dans 20 ans qu'il va falloir dire, ah, ben attendez, il faut faire des changements. Non, c'est maintenant, quoi. Moi, je le fais pour mes enfants, mais je le fais aussi pour les enfants des autres, quoi. C'est un devoir, ouais. C'est un devoir, on peut dire ça, ouais.
Bonjour, madame. Enchantée.
Bonjour.
Tu tournes. Ça va, les petits loups? Alors, vous revenez nous voir?
Alors, Baptiste n'est jamais venu encore. Ah.
Et madame la directrice.
Alors là, ce sont des petits de la crèche de Gimont, qui est une ville située pas très loin d'ici, qui viennent pour une session d'éveil sur ce terrain de permaculture.
Voilà. Bienvenue. Vous avez vraiment de la chance avec le temps, quoi. Vraiment, là, quand aujourd'hui, là, c'est juste magnifique ce qui se passe.
Ah ouais.
On croit que là, c'est vraiment.
Elle était faite pour
rêver mieux.
Mais comme arrêtez, quoi. Les auditeurs vont pas en vacances.
Ah, je vous jure. Ah non, non. On est trop bien là, on est trop bien. Vraiment. Allez, et bien on y va.
Allez, parti. Qu'est-ce qu'on entend? Mais oui.
Regarde ce qu'elles m'ont fait tout à l'heure, les poules, que j'ai été ramasser. C'est quoi, ça?
Des œufs.
Des œufs. Tu vois, on va pouvoir faire des bonnes crêpes avec, tu vois.
La poule est là. La poule est là. Regarde la poule. La poule. Là. Regarde la poule. La poule est là. La poule. Regarde la poule.
Il y a des petites racines qui vont sortir, une petite plante qui va sortir de la graine, et ça va donner cette grande, grande plante qui va sortir de la terre et qui va donner d'autres petits haricots. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est que pour qu'il pousse cet haricot, il faut lui donner de la terre et de l'eau. Donc on va prendre les petits pots, on va mettre de la terre dedans et on va planter les haricots à l'intérieur. Vas-y Johanna, regarde, tu peux remplir le pot de terre. Et voilà.
Nous sommes avec Sarah Meyer, qui est la secrétaire de cette association Les Jardins de la Marquise. Et un peu comme Jérôme, vous avez une deuxième vie ici. Lui, il était cadre dans la grande distribution. Vous viviez et vous travailliez dans l'hypercentre de Paris, que vous
exactement,
avez quitté il y a deux ans pour venir ici. C'est un retour aux sources pour vous, le Gers.
Ah
vous
oui,
connaissez très bien.
Ouais.
Comment ça s'est joué, ce changement de vie aussi radical?
J'avais ce besoin de retour à la terre. Je travaillais dans le secteur de la protection de la biodiversité, dans un bureau de conseil. Donc il y avait ce lien qui était déjà présent. Mais il y avait aussi ce non-sens de travailler sur la biodiversité dans un milieu très urbanisé, même si on trouve de la biodiversité à Paris. Il y avait ce besoin d'aller mettre les mains dans la terre.
Qui passe beaucoup par la transmission, on vient de le voir, notamment avec ses enfants. Ça, c'est très, très important pour l'association.
Ah oui. Je pense que c'est la visée, l'objectif numéro un de l'association, c'est la visée pédagogique. La production de légumes, ça vient à côté, c'est un plus. C'est notre support pédagogique, finalement, toute la culture qu'on fait ici, en permaculture. Mais on voulait vraiment transmettre ce savoir-être, pour les enfants et aussi pour les adultes, mais qu'ils puissent juste revenir à des choses simples.
Je ne peux pas ne pas poser la question à l'ancienne parisienne que vous êtes, puisque Paris est pionnière en termes de budget participatif. Oui. Est-ce que du temps où vous preniez le métro quotidiennement, c'est quelque chose qui vous intéressait? Vous avez même jeté une oreille, un coup d'œil sur ces projets-là, ou pas du tout? C'est depuis que vous êtes revenue ici?
Alors, c'est vraiment depuis que je suis revenue ici. C'est incroyable, en fait, la contradiction parisienne. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations, on est tellement submergé d'informations qu'au bout d'un moment, on balaye ça de la main et...
Saviez-vous que ça existait déjà dans la ville de Paris?
Non, même pas. En fait, je l'ai découvert quand ils l'ont lancé dans le Gers. Donc ils disaient que c'était le deuxième département, puisque Paris est la ville-département à le lancer. Donc c'est là que j'ai vu que Paris en avait un. Honte à moi, mais en avait lancé un aussi.
Est-ce que cette initiative, selon vous, redonne plus de démocratie?
Que ça redonne la voix à de petites associations, ça c'est clair. Ben nous, en premier, on a découvert des projets où c'est des associations, il y a deux personnes, hein, mais c'est super intéressant. Voilà, sur cette machine à recycler le plastique, c'est une personne au fin fond de son garage qui fait ça toute seule. J'en aurais jamais eu connaissance sans le budget participatif. Donc, ça donne la voix des fois à juste une personne, en fait, qui a un projet, une idée, quelque chose d'intelligent, mais où il n'y a pas de voix forcément pour pouvoir le faire connaître au grand public. Hein.
C'était Vous décidez, nous réalisons, un reportage de Vanessa Descoureaux, réalisation Violaine Ballet assistée de Stéphane Combe. Mixage Julien Chabassu. À la semaine prochaine.